À quoi comparons-nous le royaume de Dieu numéro 4 livret l'histoire lire Matthieu 13h24-30. C'est encore à la vie des champs que Jésus emprunte sa comparaison. Deux aspects de l'histoire sont à noter. 1. Livret. En grec, la mauvaise semence porte le nom de zizania, qui nous a donné en français le mot zizanie. Livret est une mauvaise herbe dont les fruits sont néfastes pour l'homme et altèrent la farine. 2. Le centre d'attention de la parabole. Comme nous le montrera l'explication de Jésus, tout l'intérêt de ce récit est porté sur la moisson. L'acte malveillant de l'ennemi, la découverte de l'ivraie, la proposition des serviteurs font simplement partie de la mise en scène. Il ne nous est même pas indiqué pourquoi le blé risquait d'être déraciné avec l'ivraie, ni que ces deux plantes se ressemblaient dans la première période de leur croissance, ni que leurs racines étaient entrelacées. Dans son interprétation, Jésus laisse de côté tous ces éléments. Notre attention est fixée sur l'action future du maître de maison. Il sait que la moisson lui donnera l'occasion de séparer le grain des mauvaises herbes. Le contexte, Jésus raconta cette parabole dans les mêmes circonstances que celle du semeur. Si le semeur a montré l'insuccès de la parole du règne parmi beaucoup de juifs et les raisons de cet insuccès, la parabole de l'ivraie en montre les conséquences. Rappelons-nous deux des erreurs fondamentales des juifs au sujet du royaume. 1. Tous les juifs participeraient au règne messianique, et 2. L'avènement du Messie inaugurerait le triomphe de la théocratie mosaïque sur les autres nations et religions, c'est-à-dire le triomphe de l'organisation politico-religieuse juive constituée selon la loi de Moïse. L'application originelle, Jésus nous a donné encore lui-même une explication de cette parabole. Lire Matthieu 13h36-43. Malgré cette interprétation, la parabole de l'ivraie est considérée comme très difficile. Pour la plupart des commentateurs, la leçon principale c'est qu'il existera toujours des bons et des mauvais dans l'Église et que toute tentative de chasser les mauvais avant le jugement dernier risquerait de nuire aux bons. Il s'agirait donc d'un avertissement contre tout effort prématuré de purifier l'Église de faux chrétiens. Or, je ne puis accepter cette interprétation pour les raisons suivantes. 1. Le champ ne représente pas l'Église, mais le monde, Matthieu 13h38. 2. Ce qui est censé être le point central de la parabole, l'attitude que devraient observer les fidèles en face des faux chrétiens dans l'Église, n'est même pas mentionnée dans l'explication de Jésus. Le Seigneur laisse de côté la proposition des serviteurs pour porter toute son attention sur la moisson. 3. Le Nouveau Testament nous enseigne, 1 Corinthiens 5, etc., de ne pas avoir de 26 relations avec les pécheurs impénitents ou les faux docteurs qui se disent chrétiens. Il faut s'en séparer pour garder la pureté de l'Église. Dans la parabole, l'ivraie ne représente pas des chrétiens qui ont des faiblesses, tout, nous en avons, ou qui sont tombés dans une faute. Il s'agit de fils de Satan et de pécheurs qui ne sauraient être tolérés au sein de l'Église. Pour trouver le vrai sens de cette parabole, il faut déterminer quelle portée elle avait pour ses auditeurs immédiats. Souvenez-vous qu'une parabole a pour but de comparer deux situations analogues, dans le cas présent, la situation du règne au temps de Jésus, et celle du maître de maison lors de la moisson. Jésus donne son explication en deux parties, et nous suivrons son modèle. 1. Les versets 37 à 39, où il énumère et définit comme dans une liste les éléments importants de l'histoire, et 2. Les versets 40 à 43, où il précise le point central de son enseignement. Considérons d'abord, l'une après l'autre, chacune des figures interprétées au verset 37 à 39. 1. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Ce titre désigne Jésus lui-même dans sa fonction de roi messianique et de juge, Daniel 7h13. 2. Le champ, c'est le monde, cosmos en grec. Le Fils de l'homme n'a personnellement ensemencé que la Palestine, son ministère était presque exclusivement consacré au pays juif. Matthieu 15h24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voir aussi Matthieu 10, 6, Marc 7h24 SS, etc. Dans le contexte, l'horizon est donc restreint au monde juif, là où Jésus exerça son ministère public. 3. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Jésus avait dit dans Matthieu 8h11-12, « Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ce passage, pris avec Matthieu 13h38, nous apprend qu'il existe deux catégories de fils du royaume, voire les remarques sur les fils du royaume au CH. 2. Les deux sont composés de juifs selon la chair et donc d'héritiers en puissance du règne qui leur avait été promis. Mais il fallait recevoir cette promesse par la foi. Beaucoup de fils du royaume ne croiraient pas au Messie et seraient jetés dehors et retranchés du peuple. Les autres, juifs selon la chair eux aussi, croiraient au Christ et recevraient le royaume. Dans cette parabole, les fils du royaume sont donc les Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus et se sont soumis volontairement à son autorité royale. 4. Livret, ce sont les fils du malin. Ces gens sont des ennemis du Christ et pourtant se trouvent dans son champ, royaume. Nous voyons la même situation dans la prédication de Jean-Baptiste, Matthieu 3h12, et dans la parabole des mines, Luc 19h14-27. Là, les sujets juifs du roi le haïssent et disent « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous ». Ici, il s'agit aussi de fils du royaume, des juifs, mais de ceux qui rejetèrent le Christ et qui perdraient, par leur incrédulité, les promesses faites à leur père. Jésus dirait à ces gens, Jean 8h37-44, « Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais, vous avez pour père le diable. » 5. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. C'est Satan, l'adversaire de Dieu et de son règne, qui aveugle les pensées des Juifs, Matthieu 13h19, 2 Corinthiens 3h14-4, 3 à 4, et qui inspire leur opposition meurtrière au Messie, Jean 8h43-44. 6. La moisson, c'est la fin du monde. L'expression grecque traduite ici la fin du monde, Synthleaino, est propre à l'évangile de Matthieu, 13h39-40, 49, 24, 3, 27-28, 20. Cette traduction nous induit en erreur dans la mesure où elle évoque à nos esprits le terme final de l'histoire et la disparition du monde spatial, cosmos. Car l'expression signifie plutôt la consommation ou l'achèvement de l'âge, éona, qui nous a donné en français le mot éon. La moisson représente donc la conclusion définitive d'un âge, mais lequel ? Nous retrouvons cette expression plus loin dans l'évangile de Matthieu, sur les lèvres des disciples. Matthieu 24, 1 à 3, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela ? En vérité je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, l'achèvement de l'âge ?» Une comparaison entre ce passage et ses parallèles en Marc 13, 2 à 3 et Luc 21, 5 à 7 montrera que la question des disciples ne portait que sur un seul sujet, la destruction du temple, qui est identifiée à l'achèvement de l'âge et à l'avènement de Jésus. Par la ruine de Jérusalem et du temple en 70, Jésus viendrait mettre fin, de façon radicale et définitive, à l'organisation religieuse et nationale des Juifs. L'ancienne alliance avait déjà pris fin dès le moment où le Messie fut crucifié, Éphésiens 2h15, Hébreux 9h16-17. L'édifice de la loi de Moïse s'écroula en bloc au pied de la croix, lorsque le voile du temple se déchira en deux de haut en bas. Et pourtant, bien que déjà périmé, les institutions du système mosaïque, le temple, le rituel, les sacrifices, la prêtrise, etc., continuaient à fonctionner. Dieu permettrait cet état de choses jusqu'en 70, lorsqu'il interviendrait, par l'intermédiaire des Romains, pour détruire le temple et la ville sainte. Ainsi, il mettrait fin définitivement à l'ancienne économie juive et à l'âge mosaïque, c'est-à-dire à la période de l'histoire où il entretenait des rapports particuliers avec Israël en tant qu'institution nationale et religieuse fondée sur la loi mosaïque. Cette explication concorde avec les prophéties et le vocabulaire de Daniel. Daniel 12, 4 à 7, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardai, quand viendra la fin de ces prodiges ? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. Le terme ou le point terminal des visions de Daniel, c'est l'écrasement du pouvoir juif, littéralement, quand sera achevée de manière écrasante la main du peuple saint. Les événements englobés dans ces visions s'arrêtent avec la destruction de Jérusalem et du Temple, avec la cessation des sacrifices, Daniel 9h26-27. C'est cette époque-là qui est appelée le temps de la fin, Daniel 12, 4, 9. C'est l'époque où Dieu interviendrait pour mettre fin, une fois pour toutes, à ses rapports avec Israël en tant que peuple de Dieu. La moisson symbolise donc l'achèvement définitif de l'âge où Dieu se servait de l'ancienne organisation théocratique juive. 7. Les moissonneurs, ce sont les anges. Dans deux autres passages de l'évangile de Matthieu, Jésus mentionne la présence et l'action des anges lors de sa venue pour juger le peuple juif incrédule. Matthieu 16h27-28, « Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses manières d'agir. » En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Matthieu 24:30-31, 34. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une 28 extrémité des cieux jusqu'à l'autre. En vérité je vous le dis, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Nous ne savons pas de quelle manière, ni par quel moyen les anges ont exécuté l'opération décrite ici. Mais cela ne devrait pas nous étonner. Même aujourd'hui, les anges travaillent à notre bien et agissent dans le monde sans que nous les reconnaissions, Matthieu 18:10, Hébreux 1:14-13-2. Dans la deuxième partie de son explication, les versets 40 à 43, Jésus dégage la leçon de l'ensemble. La voici, énoncée à la manière d'une comparaison, de même que le maître de maison sépare au moment de la moisson l'ivraie, qui sera jetée au feu, et le blé, qui sera conservé au grenier, de même Jésus, lors de la destruction du système juif, répartira les Israélites en deux catégories, les incrédules, qui connaîtront l'angoisse d'être rejetés de Dieu, retranchés du peuple élu et privés des promesses de l'Alliance, et les croyants, qui seront fixés dans le règne messianique. Le point central de la parabole est la séparation du vieil Israël mosaïque incrédule et du nouvel Israël composé de Juifs ayant cru au Messie. La chute de Jérusalem serait la crise qui provoquerait la séparation de l'Église d'origine juive d'avec le judaïsme endurci. La parabole de l'ivraie est donc à rapprocher à la prédication de Jean-Baptiste dans Matthieu 3, 7 à 13, comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et n'imaginez pas pouvoir dire, « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise, en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jean annonce ici une action imminente du Messie qui aura comme résultat de séparer le peuple juif en deux groupes, les justes et les pécheurs. Les justes sont les arbres qui produisent de bons fruits, ceux qui seront baptisés dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire le recevront en abondance, et le bon grain amassé dans le grenier. Les pécheurs sont les mauvais arbres coupés et jetés au feu, ceux qui seront baptisés de feu, le feu étant le symbole classique du jugement, et la paille brûlée au feu. Pour le même vocabulaire de jugement, voir aussi Matthieu 8:12. 13h50, 22h13, 25, 30, etc. L'ère du Messie, c'est Israël, et Jésus y entre, vent en main, pour séparer le bon grain de la paille. Jésus et Jean-Baptiste annoncent donc tous les deux un triage exercé par le Messie dans le peuple juif, les mauvais connaîtront l'angoisse d'être rejetés, les autres la joie d'être acceptés dans le royaume. Voir aussi Matthieu 15:12-14. La description des justes dans Matthieu 13:43 est empruntée à Daniel 12:1-3, « En ce temps là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple, et ce sera un temps d'affliction, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. » Le verset 1 parle d'une grande affliction pour le peuple juif à l'époque où l'Empire romain aurait établi son autorité en Palestine, Daniel 11:45. Cette tribulation correspond à celle de Matthieu 24:21 et de Luc 21:24, c'est-à-dire le conflit terrible entre Rome et les Juifs au 1er siècle de notre ère. Les Juifs croyants, ceux dont les noms seraient inscrits dans le livre, échapperaient. En effet, les chrétiens hébreux, suivant les instructions prophétiques de Jésus, Matthieu 24:15-18, se réfugièrent à Pella et échappèrent au désastre de 70. 29. La résurrection du verset 2 est figurative et désigne la restauration du règne à un descendant de David et la renaissance du royaume d'Israël sous le Messie. Avec la chute de Jérusalem en 586 avenue J, c, Dieu avait commencé à régner sur Israël par l'intermédiaire d'étrangers, les Babyloniens, les Perses, les Grecs et les Romains. Cette domination étrangère continuerait jusqu'à la venue du Messie. En lui, la souveraineté reviendrait à la maison de David et donc à Israël. Le Juif serait alors délivré des nations, l'un des siens exercerait la souveraineté. Quand le Messie recevrait son autorité royale, la nation juive se réveillerait. Pour certains, cette résurrection signifierait la vie éternelle et la splendeur puisqu'il aurait accepté le Messie promis. Pour d'autres, cela signifierait la honte et l'abjection éternelle puisqu'il aurait dit « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous », Luc 19h14. Ils seraient retranchés du peuple et attireraient sur eux-mêmes la colère de Dieu. L'enseignement de tous ces passages que nous avons lus est bien résumé par la déclaration de Siméon, Luc 2h34, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. » Leçon secondaire 1. L'avènement du Christ pour juger l'Israël incrédule nous rappelle que Dieu a fixé un jour où son Fils viendra juger tous les hommes. Là aussi s'exercera une grande séparation, Jésus viendra chercher les justes pour demeurer avec lui tandis que les injustes seront éloignés de sa présence. 2. Derrière le rideau agit Satan, le grand adversaire du règne de Dieu. En dépit du fait que la plupart des hommes se laissent aveugler par lui, les desseins de Dieu ne seront pas frustrés.